Aujourd'hui, c'est Shabbat Shira. Qu'est-ce que ça veut dire, Shabbat Shira? C'est le chant de Myriam qui a loué l'Éternel après la traversée de la mer Rouge. Et ce Shabbat est particulièrement, en règle générale, un temps de musique, de louange, de chant, car ce jour-là, Dieu nous a délivrés, pas seulement de l'Égypte et de son esclavage, mais également de Pharaon. Savons que nous sommes dans la paracha Béchala, hein, et qui est par excellence le passage de la mer Rouge, c'est-à-dire la concrétisation réelle de la sortie d'Égypte. Et il y a plusieurs épisodes qui, à partir de ce moment-là, vont se produire dans l'histoire et dans la vie du peuple d'Israël. Et on aurait pu penser qu'éventuellement, eh bien, Dieu avait fait son travail. Il a fait sortir les Hébreux de l'esclavage de Pharaon, va les conduire jusque-là, et que tout problème futur n'existerait plus, que toute difficulté, que tout ressentiment ne serait plus par rapport à un passé. On aurait pu penser que finalement, tout allait changer. Tout allait devenir nouveau et très positif et qu'ils allaient bénéficier uniquement de ce bon pays où coule le lait et le miel. Et il n'en a pas été ainsi. Et il nous faut comprendre que si on doit donner un titre, ça va être mon message, c'est pas le passage de la mer Rouge avec différents aspects parce qu'il nous faut au moins pratiquement toute la semaine pour arriver là où normalement on doit arriver aujourd'hui et on n'aura pas fini. C'est de ce passage de la mer Rouge à ce moment qui termine, clôture la paracha de Béchala, qui est l'histoire d'Amalek et d'Israël. Donc Amalek, le titre pour Marie-Hélène, c'est la foi ou le refroidissement. Amalek, foi ou refroidissement. Le passage de la mer Rouge marque cet événement qui fait sortir de la servitude pour passer à la liberté. Comment peut-on comprendre la liberté si on n'a pas compris de quoi on a été asservi? La liberté, c'est pas simplement faire ce que l'on veut, comme l'on veut, quand on veut, où on veut, et de ne pas avoir de règles et de normes, même de vie. Au contraire, la liberté, c'est d'avoir des règles et des normes de vie. Contrairement à une idée moderne qui croit que plus on ôte les contraintes et les difficultés, et plus on est libre, et plus on a cette liberté de choisir. Mais ce n'est pas totalement vrai. Et en même temps, ce temps marque le passage des ténèbres à la lumière. Et si nous regardions de plus près, si on était dans l'approfondissement de la Torah et de la paracha, nous verrions qu'il est en rapport avec le troisième jour de la semaine lors de la création. Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Et pourquoi cet événement qui est avant tout problème, toute difficulté, tout changement dans le cosmos va-t-il être présent dans le cadre du peuple juif, du peuple hébreu sorti de l'esclavage, où justement il quitte l'Égypte pour rentrer normalement dans les promesses de l'accomplissement faites à nos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et il correspond au troisième jour de la création. Dieu a fait quelque chose, il sépara. les ténèbres d'avec la lumière. La condition de la liberté va tenir à un point essentiel. Séparer les ténèbres pour être dans la lumière. Autrement dit, sortir des ténèbres pour vivre, entrer, garder pleinement la lumière. Et puis, plus tard, il va y avoir une deuxième action qui va se faire, c'est celui où les enfants d'Israël, après 40 ans d'errance dans le désert, devront passer encore une étape ultime, celui du Jourdain. Et l'étape du Jourdain ne va pas marquer le temps de la liberté. Il ne va pas marquer un temps particulièrement, je dirais, rappelant un peu ce qui s'est passé dans le passé, mais bien ce qui est à venir. Parce que le passage du Jourdain nous conduit justement maintenant à ce qui termine l'errance. L'errance d'une vie dans le désert. L'errance d'une vie où il s'est passé beaucoup de choses en 40 ans. Où c'est une encyclopédie ce qui s'est passé. Et qui sont pour nous énormément d'enseignements à pouvoir en tirer. Et en même temps, quand nous disons que nous sortons de cette errance du désert, c'est pourquoi ? Pour entrer dans une vie nouvelle, c'est-à-dire dans l'accomplissement. Et Pessah nous amène à comprendre le principe de sortir et d'entrer, d'être dans le changement d'une condition par rapport à une autre, de quelque chose qui fait que nous ne restons pas toujours dans la même situation et qu'il doit y avoir des moments où il y a des changements, même dans notre propre vie. Il y a des caps à passer. Il y a des moments où il y a des caps à franchir qui sont parfois très difficiles. Autrement, nous restons de l'autre côté du niveau que nous voudrions vivre de manière plus élevée, plus concrète. Et c'est clair que beaucoup de personnes subissent, vivent, et puis voudraient avoir un niveau, mais le niveau, ils ne le dépassent pas, parce qu'ils restent dans ce qui est passé. Alors, la grande leçon que l'on peut retirer, juste pour résumer cela, c'est qu'il aura fallu 40 années, 40 années, c'est dire que ce n'est pas simple pour l'être humain, de savoir sortir des ténèbres pour être dans la lumière. De passer de l'esclavage à la liberté. Et en même temps, il nous faut analyser les causes. Alors je ne vais pas le faire puisque ce n'est pas le but aujourd'hui, mais l'analyse des causes pourrait être très intéressante et multiple. Pourquoi ratons-nous nos rendez-vous avec le futur dans ce que Dieu a prévu ? Pourquoi les choses ne s'accomplissent-elles pas? Pourquoi ne se réalisent-elles pas? Et en même temps, on peut être frustré de se dire « Mais je mets ma confiance en Dieu et puis la chose n'arrive pas. Elle ne se produit pas. Elle s'éloigne parfois. Et elle m'amène dans le doute et autres. 40 ans. C'est un chiffre. Mais 40 ans pour passer, franchir ce cap, ça veut dire que c'est très long. Et les causes peuvent être le caractère de l'homme, lié à l'incrédulité par rapport au plan de Dieu. Merci. L'incrédulité dans le plan de Dieu. Ce n'est pas simplement dire « J'ai vu, Dieu m'a montré, je sais, je vais, ah il a dit, elle a dit, on va marcher, on va aller, et tout va aller bien. Il suffit de proclamer, il suffit de lier, et c'est bon. » Non, c'est pas bon. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y en a une deuxième. L'incrédulité toute seule n'est pas obligatoirement purement négative. C'est qu'ils ont dû affronter la médisance, la shonara. Ils ont dû affronter la jalousie. Ils ont dû affronter l'amertume, la contestation dans les eaux de Mériva. Et tout ceci nous démontre que ce sont des caps inévitables qui sont à franchir pour pouvoir s'élever. Soit nous restons dans le niveau d'en bas, soit nous passons dans le niveau au-dessus. Et il ne s'agit pas du concept et de l'intellect. Il s'agit d'expérience. Il s'agit de concret dans la vie quotidienne. Ce sont des défis que nous vivons tous dans nos relations, que nous pouvons vivre même sur un plan familial. Ce sont des choses qui touchent la vie communautaire de près et de très près, qui touchent les relations entre ceux qui font partie de la, j'allais dire, de la maison de Dieu, mais ce n'est pas faux. Et puis, on arrive à un moment donné où il y a quelque chose qui va se produire également dans le peuple d'Israël, qui n'a pas encore ce nom, puisqu'il n'est pas entré dans la terre, il n'a pas encore le nom d'Israël. Ils vont devoir affronter quelqu'un qui les attaque et qui s'appelle Amalek. Et là, c'est le défi de la faiblesse ou de la force spirituelle. Soit tu as une force spirituelle, soit tu as une faiblesse. Beaucoup de gens croient qu'ils sont forts alors qu'ils sont faibles. Car qu'avons-nous vaincu réellement? Nous pouvons dire, oui, Yeshua, Mashiach a tout vaincu, il a vaincu, tout. C'est vrai. Baruch Hashem et gloire à Dieu. Mais nous, en même temps, Amalek nous renvoie à quelque chose de plus profond, de plus fort. Parce que c'est la fête de Pourim qui démontrera la force, la puissance spirituelle d'Amalek dans l'histoire. Et que ne pas vaincre un ennemi de notre passé devient plus fort dans son futur, dans la destruction. Ce que je ne combats pas, ce que je n'arrive pas à vaincre maintenant, me combattra demain, mais sera plus fort. Et que, à ce moment-là, il n'y aura pas beaucoup de choix, de possibilités pour réagir, pour pouvoir intervenir. Alors, en même temps, juste pour information, le passage de la mer Rouge, c'est un beau moment dans la vie juive. C'est quelque chose où on voit les tambourins, les chants, Shabbat Shira, et tout le monde est content, et tout le monde est dans la simra, l'allégresse. Et tout de suite, quelques jours, quelques semaines après, problème. Les problèmes commencent. Le passage de la mer Rouge, savez-vous quand il a eu lieu? À quel moment? Après la sortie d'Égypte? Il a eu lieu le septième jour, à la fin de Pessah. Le dernier jour de Pessah. Il y a le premier jour de Pessah et il y a le septième jour de Pessah. Le septième jour a été quelque chose de très important. Et en même temps, nous pouvons dire que si Pessah c'est le 14 de Nissan, ils sont donc passés par la mer Rouge le 21 de Nissan. Et ce jour-là a duré une journée, dit la Torah. Yom Ha'u. Et ceci pour nous dire qu'il y a tellement d'événements qui se sont produits après ce septième jour de la clôture de la fête de Pessah, qui aurait dû être une continuité de victoire, de bien-être, de choses positives. Et aussi, on aurait pu penser, contrairement à la logique que donnerait aujourd'hui le corps médical, autant de guérisons. Ah! Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui sont dites, tant en psychologie qu'en toutes sortes de choses. C'est incroyable. On pense que quand on vient au Seigneur, il faut tout de suite, non plus combattre, mais être pris en charge pour guérir. Alors bien sûr, mais la guérison se fait dans le combat. C'est le principe des Hébreux, c'est le principe hébreu. Ce n'est pas quelque chose d'évident à admettre et à intégrer, parce que nous allons, et nous avons ce concept en Occident, que lorsque nous venons à Yeshua, à Mashiach, eh bien c'est pour qu'il nous guérisse de toutes nos blessures, passées, mais pas celles du futur. C'est pour que, justement, nous allions mieux, que nous puissions vivre quelque chose comme un temps nouveau, qu'on pourrait associer à ce que j'ai dit tout à l'heure, une vie nouvelle. Et nous serions en droit de dire, mais après plus de 400 ans d'esclavage, après autant de souffrances et de douleurs, surtout la dernière année où Pharaon a fait encore peser plus de douleurs en augmentant l'activité, les briques, les coups de fouet et les épreuves qui se sont produites, on aurait pu penser que les Hébreux étaient-ils à même de pouvoir construire une vie nouvelle. Eh bien, on dit non. Ils auraient dû avoir un temps... C'est rigolo, hein ? Non ? C'est bien rigolo. Ils auraient dû avoir un temps où un médecin, psychologue, des psychologues viennent et fassent un travail sur chacun. Ce n'est pas ce qu'on ferait aujourd'hui. Ce que l'on chercherait, c'est ça. C'est « guéris-moi, délivre-moi ». C'est un peu les mêmes mots hein, dans notre tête, en règle générale. Et on attendrait de pouvoir guérir de toutes nos blessures, d'aller tellement bien pour faire quelque chose. Mais nous voyons un principe là, spirituel, étonnant parce que c'est le contraire. Il les fait sortir, il les dirige, il les oriente et il leur dit, il faut traverser. Et tout à coup, ils trouvent des épreuves qui les rendent à nouveau. Mais ça, c'est le résultat du passé. C'est le résultat d'une vie dans le passé qui a été marquée par l'amertume quand ils passent les eaux de Marat. L'une des premières choses. Et que l'amertume sera l'obstacle et la mort si tu ne passes pas ce cap. Et etc. Donc, on pourrait aller très loin dans les explications même spirituelles et savoir que à un moment donné, la manière dont Dieu va guérir, ce n'est pas un coup de baguette magique qui va agir et tout à coup tout modifier et puis tout aplanir et que d'un seul coup, eh bien, il n'y a plus de problèmes dans la vie, plus de maladies, plus de souffrances, plus de problèmes, plus de gens qui ne nous aiment plus de gens qui nous attaquent, plus de gens qui nous critiquent. Plus de gens qui ceci et cela. Ben ça, c'est impossible. Alors, maintenant, il faut comprendre un peu certaines choses. C'est que dans ce passage, même si ça aurait été très intéressant d'aller plus loin et en détail sur bien des domaines, c'est pas ce que Dieu a mis sur mon cœur. En mettant certaines choses dans mon cœur, Dieu veut véritablement aussi que nous ayons une écoute de ce qu'il dit à toute la communauté. Où la communauté, c'est chacun, chacune. Et que ça a une importance pour le futur. Car des choses peuvent ne jamais se produire parce que désobéissant dans le présent. Parce que gardant certains comportements, certaines attitudes, certaines choses qui régulièrement reviennent. Comme exemple, je dirais tout simplement ceci. Lorsque nous avons vécu Kippour, tout le monde, en tout cas de ceux de la communauté qui ont vraiment vécu réellement, véritablement, avec droiture et honnêteté devant Dieu, Yom Kippour, afin de donner le pardon. Aujourd'hui, tu en es où ? Tu en es où ? Yom Kippour, c'est loin. Nous sommes à Pessah bientôt. Et nous voulons vivre la délivrance, mais nous n'avons pas réglé totalement ce qui a été vécu, ce qui a été dit, les engagements pris devant l'Éternel. Alors, il reviendra peut-être un petit peu là-dessus, mais c'est très important de savoir que nous ne pouvons pas passer d'une étape à une autre étape en les effaçant, et de la mémoire, et du cœur, et des expériences, pensant qu'à chaque fois, Dieu va nous donner quelque chose de nouveau. Et que nous allons être, de toute façon, ça n'aura pas d'incidence, ça n'aura pas de répercussion. Eh bien, c'est faux. Parce que ça va toucher, à un moment donné, mois après mois, peut-être année après année, des zones spirituelles sensibles, importantes, qui vont devenir de très grands défis et qui vont certainement être éprouvantes, autant collectivement que individuellement. Alors, Dieu nous démontre un principe clé et spirituel dans un premier temps. Il y a un paradoxe lorsqu'on lit la Torah et en hébreu et puis qu'on s'arrête sur certains termes, on commence à découvrir un peu le secret de ce que Dieu a voulu démontrer, parce que juste après le passage de la mer Rouge, eh bien, nous voyons qu'il y a quelque chose qui est ressorti dans les chants, dans les louanges, c'est que c'est Dieu qui a combattu pour les Juifs, pour les Hébreux. On est bien d'accord. Dieu a combattu pour vous. Ce n'est pas vous qui avez combattu, c'est Dieu qui a combattu pour vous. On est bien d'accord ?
Oui, 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 oui.
Ça, on aime bien. Hein? Ah, Seigneur, oh là là, c'est merveilleux. Moi, j'ai rien à faire. Tu vas combattre pour moi, maman. Allez, on s'assoit, va. Eh oui, j'ai rien à combattre, j'ai rien enlevé. Mais non, tu vas combattre pour moi. Tu vois, c'est les Égyptiens, c'est les méchants, là. Mais il n'y a pas que les Égyptiens comme ennemis. Et donc, le jeu de mots, le paradoxe, c'est qu'après tout ce temps de chants, de triomphe et de victoire, les enfants d'Israël vont se trouver confrontés à Amalek, mais là, Dieu ne combat pas pour eux. Et là, on se trouve devant un problème. Parce qu'on dit, mais Dieu combat les Égyptiens, mais il ne combat pas Amalek. Pourquoi ? On pourrait dire, donc c'est dans Shemot, Exode 17, et à partir du verset 8. Et les enfants d'Israël sont attaqués. Il aurait été logique que n'étant pas encore une armée, n'étant pas formé, n'ayant pas les moyens pour pouvoir faire face à des gens armés, militairement formés, etc., eh bien, que Dieu vienne, intervienne. Pour les Égyptiens, il met la nuée, le feu, il ouvre la mer Rouge, Et là, avec Amalek, rien. Et tout à coup, on voit qu'il y a un défi qui est lancé. Quelque chose qui va être la base même maintenant de toute la réflexion dans notre étude, et de voir un ensemble de choses à la gloire de Dieu. Amalek les attaque, mais dans cette attaque, les enfants d'Israël, contrairement à leur attitude, lorsque les plaies d'Égypte ont frappé, par rapport à ce qu'ils ont pu entendre de Moshé, qui allait les sortir, les conduire, là, ils doutent de leur futur. Là, tout à coup, l'attaque d'Amalek vient installer les doutes. Il vient installer les doutes, mais pas n'importe où dans la zone géographique de l'anatomie humaine. Il installe dans le cœur, dans ce qui est senti, ressenti, ce qui est perçu, ce qui, en règle générale, on dit ça fait du bien là ou ça fait du mal là. Et le doute va avoir quand même une répercussion parce qu'elle va amener quelque chose qui refroidit l'enthousiasme, qui refroidit le désir d'aller plus loin, de continuer. Et en même temps, on peut dire, c'est ce qui refroidit la confiance en Dieu. Ça, c'est un élément clé, fondamental, important. Parce qu'il gèle, il ne fait pas que la refroidir, mais il gèle la force et la puissance spirituelle que Dieu avait donnée. Et beaucoup de gens pensent à des moments que tout ce qui est vécu n'a pas d'importance et que finalement les choses vont s'améliorer, s'arranger quelque part comme par magie. Alors Amalek a la même valeur numérique que Safek et qui signifie le doute. Lieu où le doute apparaît, le lieu où le doute apparaît, c'est quand ils arrivent à un endroit qui s'appelle Rephidim. Et quand ils arrivent dans la ville de Rephidim, ça veut dire qu'ils sont arrivés, Rephidim veut dire relâchement. Quand ils sont arrivés dans la ville où ils se sont relâchés, où ils se sont laissés aller, alors à ce moment-là, Amalek est venu. Il n'a pas attaqué à Sukkot, la ville, hein, puisque c'était le passage normalement, l'itinéraire premier qu'ils devaient accomplir et qu'ils n'ont pu atteindre. Donc il y a des itinéraires, des chemins, des endroits qui ne peuvent pas être atteints, tout simplement parce qu'à un moment donné, on est bloqué à un endroit. Et le fait d'être bloqué est un défi, mais également quelque chose qui peut avoir de très très fortes répercussions. Alors on voit que si Rephidim signifie relâchement des mains, alors retenez bien, relâchement des mains. Ça c'est le terme de Rephidim. Et donc c'est dans le désert. Et c'est là que l'on peut dire qu'il t'a refroidi. C'est-à-dire que tu passes d'un état triomphaliste, enthousiaste, avec une vision du futur, d'une terre nouvelle, d'un lieu magnifique, de quelque chose qui va être ta guérison, et tout à coup, tu te trouves dans un lieu où tu ne vois plus rien, où tu n'arrives plus à visualiser. Alors, on va se poser quelques questions quand même, mais le refroidissement a comme conséquence, parce qu'il a une cause. Le refroidissement ne vient pas tout seul, on ne se refroidit pas parce qu'on est chaud. C'est quand on est chaud, on se refroidit parce qu'on nous met quelque chose qui amène du froid, qui modifie la température. Et il faut savoir que, premièrement, ce sont tout ce qui est lié au plaisir, à une dimension de vie. Et qu'il faut établir le principe qu'il y a toujours une cause à nos relâchements. Toujours une cause. Le relâchement n'est pas une fatalité. Ça n'arrive pas comme ça, par hasard, n'importe quel jour de la semaine, à n'importe quel moment de notre histoire. Ça arrive dans des moments où c'est clé, mais on ne le voit pas, on ne le sait pas. Et il peut s'être espacé peut-être 10 ans où des choses ont été vécues super bien, dans notre vie avec Dieu et tout, puis tout à coup, et il y a des passages qui peuvent demeurer un peu inexplicables. Alors, à ce moment-là, nous pouvons comprendre maintenant pourquoi Dieu a combattu les Égyptiens, parce que c'était les ténèbres, parce que c'était tout un tas de choses. Il les a vaincus, il a sorti. Mais maintenant, dans la cause du relâchement, de ce qui refroidit, il dit aux Juifs, aux Hébreux, c'est toi qui dois combattre Amalek. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et pourquoi? Parce qu'il y a une chose où Dieu n'a pas autorité. Et une chose où Dieu n'a pas autorité, ne peut agir, ne peut, avec toute sa bonne volonté, il ne pourrait. C'est qu'il ne peut pas décider du niveau de la crainte de Dieu que tu as dans ta vie. La crainte de Dieu ne vient pas de Dieu lui-même. C'est nous qui avons la crainte de Dieu ou pas. Alors, pourquoi ? Parce qu'Amalek éloigne l'homme de la crainte de Dieu, d'où le relâchement. Dans toutes sortes de sentiments, toutes sortes de déviations, toutes sortes de choses qui baissent et baissent et baissent les niveaux de la prière, les niveaux spirituels, baissent les niveaux de consécration, baissent l'engagement, baisse. Et les gens justifient par l'amertume. Ils justifient par le fait que de toute façon, il y a des raisons. Ça fait tellement longtemps, et puis on m'a blessé, et puis on a dit ça, et puis on a fait ça, et puis gna. Et puis voilà, et pourquoi on a dit ça sur moi? Oh, mais en même temps, ah, quand je prie, je suis fort. Tu es fort dans la faiblesse. Et ils baissent, et ils ne voient pas qu'ils se refroidissent. Des investissements, des engagements, modifications de comportement, les paroles changent, le style change, l'affection change, la relation change, tout change, mais ils ne le voient plus. Ils le trouvent normal, justifié, mais ils sont refroidis. Et nous trouvons dans le Talmud, dans la Megillah, au chapitre 25a, il est dit que tout est entre les mains de Dieu, excepté la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que ce combat, Dieu ne pouvait pas le mener à la place des Hébreux. Parce que si, éventuellement, ça avait été quelque chose où Dieu pouvait avoir force et autorité, il aurait agi. Mais là, il ne pouvait pas. Et ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, personnel et collectif à la fois. Tout est entre les mains de Dieu, excepté la crainte de l'Éternel. Ce qui signifie que ce combat ne peut se faire que par nous-mêmes. Mais en même temps, c'est extrêmement dur de combattre ce que l'on ressent, ce que l'on est devenu, ce que l'on a laissé entrer, ce que finalement on a laissé se développer. Et on pense que de toute façon, eh bien, ce qui est ressenti, la manière de vivre est juste. Il est normal que si on a provoqué de l'amertume en moi, qu'elle travaille en moi. C'est normal. Et c'est normal que je lui donne pouvoir. Vous entendez bien? Il est normal, par déception, de donner pouvoir à l'amertume. Parce que mon orgueil a été touché. Parce que ma personne, parce qu'il y a quelque chose qui m'a atteint. Et on se comporte après comme des personnes qui sont normales, tout à fait normales, où on a l'impression que rien n'est modifié, sauf quand elle parle, sauf quand elle est confrontée à la personne ou au problème. Tout à un coup, le ton change, l'agressivité change. Ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus de la gentillesse, ce n'est plus de la bracha, de la bénédiction qui sort. C'est des malédictions, c'est des accusations. C'est des reproches, c'est des machins. Et vas-y, je t'en mets plein la gueule. Pardon. Ouais, allez. C'est moderne. Et vas-y, prends. C'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que tu m'as. Attends. Ça, c'est Amalek. Alors, ils ne voient pas. Parce qu'il n'a pas de nom. L'amour propre n'a pas de nom. L'orgueil n'a pas de nom. Mais il touche. En même temps, nous devons comprendre que plus la crainte de l'Éternel s'éloigne de nous, plus la vulnérabilité est là. En même temps, il y a la manière dont ce combat va s'organiser, qui sera de toute façon étrange, c'est que c'est Yehoshua, Josué, qui sera désigné pour combattre Amalek. Et qui est Yehoshua, qui s'appelait Hoshia à la base? Pourquoi Moshe lui a donné un changement de nom et lui donne la puissance, la capacité de la délivrance du salut? Parce que Yehoshua, c'est pratiquement pareil que Yeshua. Il y a peu de différence. Et on voit que, quelque part, Moshe va rester en retrait. Mais que celui qui va devoir combattre Amalek, c'est Yehoshua, celui qui a changé de nom, mais dans le bon sens du terme, et qui est apte à pouvoir mener ce combat et à le gagner. Normalement, théoriquement. Et puis nous voyons que Yehoshua, qui s'appelait Hoshia, nous indique pourquoi il a été choisi. Qui est Yehoshua? Il est un descendant de Yosef, de Joseph d'Égypte. Mais Yosef n'a jamais été emprisonné par l'Égypte. Regardez bien. Il n'a jamais été vaincu par tout ce qui s'est produit en Égypte. Au contraire, il a été celui qui a accompli la sortie d'Égypte. Yosef est justement le Mashiach caché, le Messie invisible, et qui en même temps, tout au long de ces années, non pas, et regardez pour avoir la victoire, non pas travailler l'amertume de la trahison de ses 11 frères, enfin 10 à l'époque. Il ne va pas ruminer nuit et jour. Et Réhouven, ils m'ont mis dans la fosse, et puis l'autre, il m'a pas défendu, puis aucun de mes frères ne m'aime, aucun de mes frères ne m'a défendu, et puis moi, là, je me trouve esclave en Égypte maintenant. Réfléchissez. Faites marcher les neurones du cœur. Vous voyez Yosef être effondré, cassé. Personne ne m'aime, ici il n'y a pas d'amour. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai pas entendu dans ma vie, ça? Il n'y a pas d'amour là où tu n'en mets pas. C'est sûr. Si tu ne mets pas de l'amour, il n'y en a pas. Voilà, c'est réponse simple. Tu mets de l'amour, il y a de l'amour. Tu ne mets pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Voilà, c'est simple. Hein? Eh oui. Descendant de Yosef, et il tient une promesse qu'on va lire dans Bereshit, dans Genèse 48. Et les versets, alors je ne sais plus si c'est 8 ou 18. À partir du verset 17, et Yosef vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Menaché. Et Yosef dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Et son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un grand peuple. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude des nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manaché. Et il mit Éphraïm avant Manaché. Et c'est la prière de bénédiction des fils dans le Shabbat, dans les rêves Shabbat. Ne pas accorder d'importance, parfois, à ce qui est écrit, ce qui doit être prononcé comme une bénédiction, fait rater les temps de vie avec Dieu. Et là, nous voyons que cette promesse, qu'ils vont devenir une grande nation, eh bien, Yahushua fait partie. Et que c'est extraordinaire et extraordinaire de voir quelle gloire, de voir tout ce qui s'accomplit n'est lié qu'aux promesses que Dieu fait lui-même. Et qu'elles ne sont pas les inventions d'une stratégie par coaching, par management, par toutes sortes de technologies, par toutes sortes de manipulations, mais qu'elles sont réelles. Alors, il est dit dans Deutéronome, dans Devarim 25-18 aussi, que Amalek ne craint pas Dieu. Et l'enjeu de la guerre d'Amalek ne va pas être simplement d'empêcher des anciens esclaves sortis d'Égypte de continuer leur chemin et leur route. Le but d'Amalek n'est pas simplement d'attaquer un groupe de personnes sorties d'Égypte, mais bel et bien de combattre et d'enlever la crainte de Dieu dans leur vie, dans leur cœur, car elle sera clé dans le futur. Alors, le mystère, il réside aussi dans le fait que Moshe, et vous allez voir que si nous avons parlé maintenant de Yehoshua qui est allé dans le combat, il faut savoir qu'à un moment donné, l'autre revers de la médaille qui est incompréhensible sans donner les secrets, les profondeurs et les explications, c'est que Moshe doit se tenir sur une montagne les mains levées. Et nous avons vu que Refidim, c'est relâchement des mains, les mains baissées, les mains de l'action, les mains de la purification. Je veux que les hommes élèvent des mains pures lorsqu'ils invoquent l'Éternel. Lorsque les mains ne sont plus aptes, elles sont en bas. Et quand elles sont en bas, et regardez, c'est même naturellement ancré en nous. Lorsque nous sommes dans la joie ou qu'on gagne, allez, on va dire même un match de foot, voilà. Quand la France gagne la Coupe d'Europe, qu'il y a longtemps elle n'a plus gagné, quand elle a gagné, vous aviez tout le monde dans les roues, dans les rues. Et les mains levées, ouais, ouais, on a gagné. Hein? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde était là, ouais, 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 ouais. Et puis quand l'année d'après, ils se sont retrouvés en Chine éliminés au premier tour, la tête est baissée, les mains sont baissées. Et tout le monde est là. C'est même ancré en nous. Lorsque nous levons les mains, il y a quelque chose. Et lorsque nous les baissons, ça signifie quelque chose. Moshe élevait les mains, mais c'est Yehoshua qui combat. Et pourtant, ce qui détermine la cadence du combat, l'intensité de la victoire, ce sont les mains levées. Ce n'est pas la force physique de Yehoshua, ce n'est pas l'enthousiasme ni même l'engagement de Yehoshua qui va réussir à vaincre Amalek. Yehoshua tout seul n'aurait pas vaincu Amalek. Et donc cela veut dire qu'il y avait quelque chose d'autre qui devait venir et être présent pour vaincre Amalek. Les mains levées de Moshe assurent la victoire. Et quand les enfants d'Israël qui étaient avec Yehoshua, regardez Moshe, avec les mains levées, la foi revenait, le courage revenait. Mais quand ils détournaient qu'ils ne voyaient plus, Amalek gagnait. Donc c'est très bizarre comme combat. Et en même temps, on est obligé de se dire, mais quand Moshe élève les mains, ce n'est pas simplement un geste. C'est que nous voyons derrière aussi qu'il élève les mains dans la direction d'en haut. Autrement dit, il dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas moi que vous devez regarder, car la victoire, elle est là-haut. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde. Et nous voyons bien que, à un moment donné, regardez où se portent vos regards dans les problèmes et les difficultés, où un certain nombre de choses vous tournez vos regards. Soit vers des hommes, soit vers des médecins, soit des ceci, des cela. Vous savez, pour guérir, être délivré, l'homme est capable de regarder dans tous les sens et dans toutes les directions pour essayer d'être libéré, guéri et délivré. Et être, en quelque sorte, amélioré. Avoir un bien-être. Mais tu peux regarder dans toutes les directions, tu peux faire toutes les conventions. Alors ça, vous n'allez peut-être pas aimer, mais tant mieux. Vous allez aller dans toutes les conventions, pensant que d'une convention à l'autre, d'un homme à l'autre, d'un espèce de ministère à un autre ministère, ça va constituer des bribes qui vont amener l'état souhaité. Je suis désolé aujourd'hui, je suis là pour vous décevoir. C'est lorsque tu ne regardes plus au niveau d'en bas et que tu regardes au niveau d'en haut que les choses deviennent possibles. Parce que le secours vient de l'Éternel, il ne vient pas d'un espèce de truc développé par l'homme. Et ceci est une règle. Alors bien sûr que le niveau des croyances, et c'est là que la foi s'affaiblit, c'est là que le relâchement vient. Parce qu'on met un niveau de croyance dans des choses que la pensée peut capter de manière très rapide et puis qui en même temps donne le moins de travail possible et qui en même temps, eh bien tu n'as qu'à venir, on prie pour toi, c'est fini. Tu parles pendant 2 heures, on te fait ton machin, on te donne quelques conseils, allez, prends le paquet cadeau à la maison, et demain ça va mieux. Tu peux pas. Il nous faut entrer dans une dimension qui soit beaucoup plus élevée. Et quand les mains de Moshe sont levées en direction du ciel, les enfants d'Israël se rappelaient que Dieu était avec Moshe. Et que au travers de ce geste, il reprenait courage. Yamalek, reculez. Oubliez Dieu dans vos combats, dans vos recherches. Et regardez aux hommes, aux techniques, aux bouquins, à Internet, à ce que dit un tel et un tel. Vous surfez comme jamais dans votre vie. Jamais il n'y a eu autant de gens pouvant toucher tous les sujets possibles, imaginables. Et jamais il n'y a eu autant de gens vaincus par l'amertume, vaincus par les problèmes, vaincus par des soucis, avec des niveaux de vie relativement bas, avec des problèmes familiaux pas possibles, avec des problèmes de vie pas possibles. Et on se dit, mais il y a un problème. C'est pas seulement Johnny et Sylvie qui chantaient « J'ai un problème ». Et maintenant, c'est à plus grande échelle. Pourquoi ? La réponse, elle est très, très bête et elle est très simple. C'est qu'on regarde à ce qui peut convenir. Mais le fait de regarder en haut, ça va plus loin. Parce qu'on évite de se tromper soi-même. Qu'est-ce que cela signifie en réalité ? Lorsque les enfants d'Israël regardaient dans la direction de Moshe, ça signifiait quelque chose. Donc, si nous regardons dans nos souffrances, dans nos difficultés, en attendant de la compassion humaine, le regard approbateur de quelqu'un qui va condamner quelqu'un qui nous aurait fait du mal, si nous tournons nos regards vers quelqu'un qui va nous écouter et en même temps nous cautionner dans nos mauvais sentiments. Ça, il y a des spécialistes. Et qui vont avoir une oreille compatissante en disant « je te comprends ». Ben moi, je te dis franchement, tu viens me voir, je te comprends pas. Parce que ça ne se justifie pas. Parce que c'est inacceptable. Alors vous allez dire, oh là là, alors là, il est parti. Mais c'est vrai, tu veux te libérer. Ben voilà. Là, instantanément, tu es guéri. Il y a une chose qui fait que le fait de regarder le visage de Moshé déclenchait quelque chose. Mais le fait de ne pas regarder le visage de Moshé, c'est qu'ils mettaient leur confiance dans le matériel, dans l'existant, dans la temporalité, mais qui est marquée par l'instabilité. Ce qui est temporel n'est pas stable. La temporalité, c'est quelque chose qui se termine, qui se modifie, qui n'a pas de stabilité. Et ce qui fait que chaque fois que quelqu'un voudra et pensera qu'en se tournant vers les choses humaines ou pensant qu'il est trop spirituel et qu'à lui seul il incarne la toute puissance des puissances et qu'il a besoin de personne, il est dans l'erreur, dans la tromperie, il est en train de se séduire lui-même. Mais quand nous mettons le regard dirigé vers les mains des Moshé qui nous montrent la direction d'où vient le secours. Alors nous savons que là, nous sommes dans quelque chose qui demeure éternellement, c'est-à-dire ce qui a un fondement du passé, du présent et du futur. La temporalité n'a pas de futur. Le principe de la temporalité, c'est qu'elle ne peut pas assurer au-delà d'une limite. Elle ne peut pas donner plus qu'au-delà de quelque chose d'un temps limité. Et que même si ça fait du bien, et regardez, même si la thérapie, même si ces choses et ces onctions et ces machins font du bien, ils sont à durée limitée. Ils durent un temps, ils font du bien un temps, mais ils ne guérissent pas, ils ne délivrent pas. Oh. De l'abondance du cœur. La bouche parle, mais la main agit. Et on a besoin de comprendre que nos vies ont besoin d'avoir un fondement. Et que quand Dieu agit dans notre vie, et quand nous sommes délivrés de quelque chose, nous sommes délivrés pour longtemps. Nous sommes délivrés dans long terme, jusque là-haut. Mais oui, la délivrance, ce n'est pas aller mieux 10 minutes. Ce n'est pas s'améliorer quelques jours, une semaine. Ce n'est pas se sentir mieux, soulagé. Délivré, c'est délivré, guéri de tout. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, tout le monde ne pensera pas ça. Mais avançons. Il nous faut quand même comprendre qu'il doit y avoir derrière quelque chose qui vient soutenir. Et qu'on ne peut pas être délivré, je dirais, n'importe comment. Il y a une méthodologie du ciel. Il y a quelque chose qui fait, parce que Aaron et Hur, à un moment donné, alors que Moshé pouvait être dans le relâchement par la fatigue. Vous savez, les problèmes, il n'y a rien de plus usant. Il n'y a rien de plus fatigant. Des fois, je rentre, j'ai mal à la tête. Il y a rien ne peut user l'être humain que les problèmes. C'est quelque chose de terrible, ça nous assaille, ça nous frappe, ça nous... Et ça nous coupe la chic. Ça nous arrête et on n'a plus envie, et on a envie de loisir. Alors on va à New York, on va au ski, on va à la mer, on va au chalet, on prend des vacances. Et on pense que quand on revient, ça va mieux, le temps des vacances. Mais quand tu reviens, le temps des vacances n'étant plus, tes problèmes. Alors, il faut comprendre que Moshe nous démontre la puissance de ce combat, qui n'a pas duré une heure, mais des heures, et qui en même temps était paradoxal parce qu'il était conscient que quand il levait les mains, Yehoshua gagnait. Il gagnait pour Israël dans le futur. Il gagnait le trône du Mashiach. Il gagnait le royaume de Dieu. Il ne gagnait pas simplement la victoire en tuant quelques êtres humains, parce que la dimension était spirituelle. Et il faut comprendre qu'à un moment donné, si nous restons qu'à la compréhension naturelle, humaine, psychologique, émotive, affective, on n'a rien compris. On n'a rien compris au plan de Dieu dans nos vies. Mais si on a la compréhension spirituelle, ça nous amène quand même beaucoup plus loin. Et ça nous dirige beaucoup plus loin. Alors, à un moment donné, il va avoir la pluie de Aaron et de Hur. Et ces deux appuis, il faut savoir sur quoi nous appuyons notre émouna, notre foi. Est-ce que nous l'appuyons sur la prédication d'un homme, d'un homme qui dit venir des États-Unis, qu'on ne connaît ni Adam ni Ève, mais qui a écrit 3 bouquins, et qui dit qu'il a l'onction et qu'il a le don des miracles. 99% des gens aujourd'hui croyants vont là-dedans, le croient, sans vérifier, sans savoir qui il est. Il a une réputation, une biographie, machin, et on le suit. Ah, il va nous guérir. En qui tu mets ? Dans une dénomination ? Dans des convictions personnelles que tu as développées dans quelques trucs vécus et que tu as fait machin, et puis tout à coup tu t'ériges en autorité spirituelle. Et là, il nous faut la réflexion qui va plus loin. La réflexion qui va plus loin, c'est que il nous faut des supports sur lesquels Dieu est appuyé, dans lequel Dieu est. Je ne crois pas que Dieu soit dans le temporel d'un homme. Non. Mais je crois que Dieu est dans la Torah, et dans le Tanakh, et dans la Bible. Non ? Où sont les promesses ? Sinon, là. Alors, bien sûr, il y en a qui vont venir avec « I love you ». God bless you, oh, j'aime la France. Je vous aime, pourvu que ce qui sera demandé tout à l'heure soit conséquent. Donc il faut être positif, vous savez, il faut être à l'eau de rose. Il faut faire plaisir aux gens, il faut qu'ils soient dans le club zen. Et on va faire tout pour que tu sois bien. Et on va commencer à agir. Premièrement, la Torah. La Torah, c'est l'écrit de Dieu dans l'histoire des hommes. Ce qui s'accomplira, ce n'est pas ce que disent les êtres humains. C'est ce qui est écrit là. Deuxièmement, Hur va représenter la tefila, l'attachement à Dieu. La crainte de Dieu, le refroidissement, fait que les tefilines sont détachées. L'attachement à Dieu du cœur, la tefila, c'est-à-dire la prière, ce qui doit nous motiver dès le matin, dès le matin, eh bien, d'un seul coup, on va vivre des choses dans la journée, mais tout est vaincu d'avance, parce que les gens prennent de moins en moins le temps, et puis ils écoutent plutôt un message sur MP3, et sur Internet, ils surfent sur les emails avant même, et ils commencent et ils pensent que de toute façon, la bénédiction qui est venue dimanche va couvrir la semaine. Non. Chaque jour, la manne tombait. Alors, quand je dis de la Torah, hein, je ne dis pas simplement la lecture. C'est pas parce que tu vas lire 10 chapitres que ça y est, tu as mis la zone de protection. Et que tu as mis le champ magnétique où l'ennemi, dès qu'il touche... Non. C'est pas ça. C'est l'étude. c'est d'acquérir une pensée dans une compréhension qui a une cohérence, que quand on dit à l'ennemi, Dieu a dit, l'autre tristesse. Mais si tu dis, ah oui, le pasteur Intel, il a dit de dire dans ces cas-là ce qu'il faut dire. Alors je vais dire ce que le pasteur a dit dans ces cas-là. Ça marche pas. Alors quand tu as l'attaque, se disait, eh bien, tu as tellement peur du noir, tu mets la lumière, tu dors toute la nuit, lumière allumée, pour bien distinguer qu'est-ce qui se passe dans le ciel étoilé des luminaires. Mais à part ça, je n'ai peur de rien. Alors, même si c'est un peu caricaturé ce que je fais, néanmoins, il faut comprendre que l'attachement est la clé. Mais l'attachement, c'est parce que il y a ça qui m'a attaché à Dieu. Si mon attachement vient de l'affection des hommes, d'une affection humaine, à un style, à quelque chose de brillant, ou même intellectuellement, et que ça m'attache particulièrement parce que, ah ben là, lui, ah oui, ah là, il est gentil. Ah, mais M. Rodriguez, il est gentil, mais quand même, il est dur. Donc, on va là-bas. Ah, lui, il me dit des mots gentils, lui. Ah, je vais m'attacher dans cette assemblée parce qu'il est gentil. Il ne va pas me délivrer, mais il est gentil. Et là-bas, je ne vais plus parce que... Il est dur, Il nous demande beaucoup de trucs, lui. Et d'un autre côté, on se rend bien compte que les personnes vont s'attacher, qu'elles le veuillent ou pas, consciemment et inconsciemment à la fois, à tout un tas de choses autour d'elles, et qui fait que elles ont mis leur foi, leur confiance dans ce qu'elles ont ressenti envers quelqu'un. Mais elles n'ont pas regardé et cherché l'Éternel. Donc l'attachement est aux hommes et non à Dieu. L'attachement est aux hommes et non à Dieu. Et puis il y a ceux qui disent, « Ouh, alors moi, il n'y a que Dieu. Dieu me parle, Dieu me conduit, Dieu m'oriente, Dieu me dirige. » Et puis il n'y a rien autour. Je m'attache tout seul. Je n'avais pas pensé celui-là, mais il est pas mal. Et ils disent, j'ai besoin de personne. Moi, j'ai tout. Et puis, quand on leur dit quelque chose, de toute façon, non, moi, au nom de Yeshua, calme-toi. Mais quand ils ont un problème, une difficulté, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. C'est ce qu'il faut voir. Alors, Amalek est impossible à vaincre, autrement dit, par des propres forces naturelles, humaines, qui puisent sa source dans la temporalité. Mais, dans les faits, dans la réalité de ce que nous devons comprendre en profondeur, c'est que Amalek est celui qui veut s'élever et prendre la place du trône d'en haut. Le trône du Messie, le trône de l'Éternel. Et on réalise et on se rend compte qu'à partir de là, il y a quelque chose qui est symbolisé par le fait d'avoir les mains levées. Que ce n'est pas simplement un geste, mais il signifie que le trône de Dieu est élevé et règne. Alors, ce qui n'est pas obligatoirement toujours compréhensible, c'est que ce combat était lié à la dimension de celui qui va régner. Et c'est lié au droit d'aînesse, à la royauté du Messie. Et il faut aller un petit peu plus loin pour le comprendre et le capter. c'est que Amalek, c'est la descendance d'Ésav. C'est le combat entre Ésav et Yaakov. C'est le combat d'Édom dans les temps de la fin. C'est la dimension où, justement, on veut établir un autre règne, le règne de l'humanisme, le règne humain. Et la COP21 n'était que la tentative d'un gouvernement mondial qui n'a que partiellement échoué, mais qui va trouver son accomplissement dans les années ou dans les mois qui viennent. Ce n'est qu'une question de temps. Et nous savons que dans toutes les études qu'on a faites précédemment, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est marqué. Et qu'à partir de là, dans le combat des Indes, c'est qu'il veut reprendre le droit d'aînesse à Israël. Il veut reprendre, il n'a jamais digéré le fait que son père ait donné la bénédiction à la descendance, au futur, pas seulement à un homme, mais à tout le futur, à l'accomplissement jusqu'au règne du Messie. Et que cette attaque d'Amalek était celle d'arrêter le principe de l'accomplissement. Et qu'il ne s'agissait pas seulement. Alors il va s'y prendre d'une manière où, tout à coup, il attaque en mettant le doute, en mettant la division, la zizanie, les diversions dans pensées divisées, divergences d'opinion, machin, doctrine, machin, et trucs, et pratiques, et tout se met en opposition. Et là, je peux le dire, Amalek règne. Parce que les mains ne sont plus levées. Quand les mains se lèvent, et que la Kéhila recombat, s'attache à nouveau à Dieu, et qu'elle revient dans son appel, mais dans l'unité et dans la compréhension, et pas simplement pour elle-même. Beaucoup trop de gens pensent à eux-mêmes, « Ah, je veux l'étude, ah, je veux l'enseignement, ah, je veux, et ils ne bougent pas. » À un moment donné, théorie. Et justement, dans ce créneau extraordinaire, nous voyons que Ésav a échoué. Mais il va essayer tout au long de l'histoire, de génération, dans chaque génération, il essaiera. Et chaque génération qui voudra marcher dans les voies de Yeshua Mashiach, selon les racines juives, selon le principe hébreu, Amalek, tôt ou tard, viendra te rencontrer. Il te rencontrera peut-être ici, dans la Kéhila messianique. Et puis d'un seul coup, tu vas dire, ah, c'est trop difficile, ou c'est compliqué, ou il faut faire le Shabbat, ou il faut faire ça. Ah, mais moi, vous savez, j'aime bien aller dans deux lieux à la fois. Il y a le samedi et le dimanche. C'est le week-end. Et là, eh bien, on ne suit pas qu'une direction, mais on suit des directions. Et on compense. Alors, il nous faut savoir qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Le cœur est partagé, mais en même temps, ça ne donne pas la cohérence par rapport au futur. Et que nous avons besoin de comprendre pour justement aller plus loin, qu'à un moment donné, chacun doit entrer dans ce qui lui appartient. Il y avait 12 tribus. Mais regardez pourquoi, finalement, la royauté était si importante et que ce combat était si fondamental. J'en suis même pas la moitié, mais on va arrêter quand même. Aaron et Hur, de quelle tribu sont-ils ? Ils sont de la tribu de Yehuda et Yehoshua de la tribu de Yosef. Et vous vous rappelez des parachas précédentes ? Non, Aaron et Hur, tribu de Juda. Hein ? Oui, mais il est sacrificateur, il est Cohen. Oui, mais c'est dans la lignée sacerdotale, si on suit le... Et Our. Ils sont de la tribu de Yehuda. Et vous avez remarqué que on a vu beaucoup de textes sur la réconciliation entre Yehuda et Yosef. Et qu'il y a, dans la tradition juive aussi, la dimension du Messie ben Yosef et la dimension du fils ben David. Entre celui qui vient souffrant et entre celui qui vient triomphant, rayonnant, mais pour régner. Et que c'est ce Messie-là qui doit venir maintenant. Ce n'est pas le Messie descendant de Yosef. Et donc, pour nous, c'est le même Messie. C'est la même personne. Mais, néanmoins, il nous faut comprendre cette dimension que je ne peux pas trop développer maintenant, parce que c'est ce qui constitue l'enjeu réel de la royauté du Mashiach. Et elle se combat à Rephidim. Chaque fois que nous combattons ici ou que nous ne combattons pas quelque chose, c'est le bien ou le mal qui triomphe. Mais qui triomphe par rapport à une position du futur, où lorsque nous voudrons entrer dans ce que Dieu a prévu, ça se cassera. Il ne faut pas croire que c'est l'immédiat qui se détruit, qui s'érode, mais que nous devons bien le capter avec le cœur, que c'est souvent en rapport avec quelque chose qui sera dans le futur et qui deviendra la pierre d'achoppement. Rephidim, Amalek, c'est aussi l'antisémitisme des âmes. C'est la haine des Juifs. Beaucoup trop de chrétiens ont le mépris d'Israël. Et je sais qu'il y en a qui aiment l'enseignement qu'on donne, mais aimer Israël, aimer les Juifs et combattre à ses côtés, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Et on aura beau essayer de m'endormir et de m'anesthésier, je n'y croirai pas jusqu'à ce que je le voie réellement. Et ça, c'est pas simplement prier en étant assis pour Israël que ça calme la conscience que Dieu va passer l'éponge. Non. Car ceci deviendra un jour dans ton foyer le problème qui viendra. C'est la position. Et en même temps, il nous faut comprendre le sens réel du combat. La haine des Ésaves, on voit qu'elle a produit Amalek. C'est la haine des Ésaves qui a produit Amalek, qui a fait naître en Amalek des sentiments tellement haineux qu'il est le premier ennemi à vouloir attaquer et à détruire le futur d'Israël. Il est le premier à sortir, le combattre, à le défier, sachant qu'il n'a peut-être pas la force spirituelle pour le faire. Mais il est le premier. Et puis dans un deuxième temps, on remonte plus loin dans l'histoire, pour aller très vite, indépendamment de 1 Samuel avec Saül et David. Mais nous voyons que ce qui a voulu détruire massivement le peuple juif en Iran de l'époque, hein, puisque c'est l'Iran actuel, hein, la Perse, eh bien, c'est Aman, le projet de Aman. Et ce projet de Aman de Pourim, vous le trouvez dans les termes modernes, dans le procès de Nuremberg, où il a été parlé de Pourim, et où la haine d'Hitler a été jusqu'à vouloir détruire massivement les Juifs. Et elle s'est trouvée dans l'histoire de l'Église, cette haine. Elle s'est trouvée au cœur de l'histoire de l'Église, la haine et le mépris des Juifs, la haine de la racine d'Israël, la haine de ce peuple qui a été caricaturé, les Amalek qui ont voulu détruire ce peuple dans l'histoire, même en diaspora, pour que finalement il y ait toujours une substitution au droit d'aînesse. Et puis nous voyons que Dieu restitue à Israël aujourd'hui son existence. Il est impératif de comprendre le combat qui est mené aussi aujourd'hui par Amalek dans la nation France, dans la ville de Paris, dans tout ce qui se fait, et de ne pas cautionner l'antisémitisme. Je déteste les croyants qui cautionnent l'antisémitisme bébête, des caricatures sur mes frères juifs, ou qui ne s'engagent pas, qui relativisent, pensant que eux, croyant en ayant l'onction, sont supérieurs. Nous le verrons un jour. Je ne peux aimer ça, parce que c'est le combat des temps de la fin. C'est le dernier combat avec Ésav, avec Édom, qui inclut la descendance d'Ishmaël, qui est vraiment la guerre de Gog et Magog, avec l'ONU, avec ce qui vient de se passer, la COP21, tout est pratiquement en train de se mettre en place. Ne pensez pas que les événements qui se passent dans le monde sont anodins, tant sur le plan climatique. On parle de réfugiés climatiques, de réfugiés économiques. On emploie des termes aujourd'hui qu'on n'a jamais entendus dans notre vie. Et puis, il nous faut quand même aller un peu plus loin dans ce domaine et voir tout ce qui est en train de se détruire. Et que, pour vous donner une idée, vous croyez que c'est un hasard si la bourse a chuté à cause de la Chine de 7%, mais la réalité est beaucoup plus élevée que ça. Et que vous ne savez pas quel tsunami. Ceux qui sont dans les études des finances savent très bien ce que ça veut dire dans le futur. Et dans la répercussion, tout va être bouffé. Et déjà, il y a des choses qui sont ressenties dans ceux qui ont placé leur retraite. Des choses, des épargnants ont été bouffés. Leur argent n'est plus, il est virtuel. Et donc, nous voyons bien qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, il y a le projet d'Aman, qui est celui aussi d'Hitler. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 62 et le verset 6, il dit qu'il a placé des gardes sur les murailles de Jérusalem, qu'il a mis des sentinelles qui ne se tairont ni jour ni nuit. Alors, il y a les Juifs et les Juifs messianiques, et puis il y a aussi ceux qui devraient être des croyants qui soient des sentinelles et des gardes sur les murailles de Jérusalem. C'est bien de chanter Corinne Lafitte, mais c'est mieux d'être dans l'action et de se dire, mais est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui prie pour Israël, qui combat ce qui se passe, ou est-ce que je suis encore en train de prier que pour moi, mes problèmes, mes difficultés, mes souffrances, mes problèmes d'argent, mes soucis d'endettement, et ceci et cela, parce que ça, c'est toute ma vie, et c'est plus important que toute la vie des autres, et toute la vie de mes petits-enfants, parce que tout ce qui se répercute après sera sur les enfants. Alors, je vais conclure, parce que c'est juifs et non-juifs dans le Messie, dans les l'Echad de Mashiach, que la force spirituelle des temps de la fin, des temps que nous vivons, pourra se développer à condition qu'il y ait quelque chose qui change dans le cœur, même dans la Keïla, le cœur des gens qui prient dans la Keïla, la manière que vous avez parfois de prier, les choses dans lesquelles vous priez ne sont pas toujours dirigées par Dieu. Et il nous faut comprendre que cette force des mains levées, qui est l'étude de la Torah, l'enseignement, constitue la racine nourricière, la méditation de la prière. Et que lorsque l'on entre dans la Tefila, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se fait de manière extraordinaire. Parce que la puissance de la prière pour Israël, c'est celle qui prie pour que les choses s'accomplissent. Les deux mains de soutien, comme je vous l'ai dit, c'est Israël et l'Ecclésia. Ce qui est en train de se faire dans les temps de la fin, il est en train de rapprocher Yehuda et la tribu de Yosef au travers d'Éphraïm, et il vient tenir ce petit peuple. Ne priez que pour voir et recevoir. Ne priez que pour obtenir, que pour avoir des bénédictions. C'est vivre dans la défaite. Je ne sais pas si vous le réalisez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut plus prier pour ses besoins. Au contraire, mais pas uniquement que pour ça. Prier en voyant la royauté du Mashiach. Ça, c'est la victoire. C'est le niveau de la délivrance finale de ce qui a commencé avec la puissance, avec le passage de la mer Rouge. La prière, la puissance de la prière pour le Mashiach, où il est dit dans Avinu, comment devons-nous prier, disaient les Talmidim. Comment devons-nous prier? Et Yeshua ne leur donne pas d'autre prière que celle que les maîtres et les sages ont établie. Indépendamment de tout le début, Avinu Sheba Shamayim, etc., la prière conclut que ton règne vienne et qu'il s'établisse sur la terre comme au ciel. Aaron est le souverain sacrificateur d'Israël et il représente la force spirituelle dans l'intercession. Il y a la puissance de l'intercession, la puissance de la compassion. Aujourd'hui, je suis effaré de la qualité médiocre des croyants dans leur rapport les uns avec les autres. C'est médiocre et encore gentil de ma part. Une qualité qui est devenue une basse qualité de vie, où on justifie le mal, où on justifie l'orgueil, l'amour propre. Aaron est celui qui porte les tribus qui ne sont pas parfaites, qui sont difficiles à rassembler, à réunir. Ces 12 tribus qui ont toutes un avenir, ils représentent quelque chose d'important dans l'intercession. Notre intercession, est-ce qu'elle a une écoute de Dieu aujourd'hui, dans nos temps? Mais si elle ne l'est pas, c'est parce que nous nous détruisons les uns les autres, parce que nous avons les mêmes principes de vie, de comportement, d'attitude que le monde, que l'Égypte, et les plaies frappent l'intérieur, les ulcères viennent chez toi, les sauterelles ravagent ce que tu travailles, la vie spirituelle est bouffée en une semaine, et les choses ne s'accomplissent pas, et tu penses que de toute façon tu peux continuer, et tu continues, et le découragement, et les problèmes, et malheureusement, tout s'ajoute et tout se greffe. Et je crois que la compassion, qui a de la compassion aujourd'hui? Il est vrai qu'elle a disparu des habitudes et des mœurs. Elle est remplacée par l'ego, l'égoïsme, l'individualisme, le « je ne pense qu'à moi, je ne veux que les gens que j'aime moi, je ne veux pas quelqu'un que Dieu me mettrait pour apprendre à aimer. » Mais non, moi je l'élimine celui-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, merci. Mais j'aimerais que tous le disent.
C'est vrai.
Ah, ouais, c'est dur. Hein. On a besoin d'entendre des choses où on doit reconnaître qu'on a une capacité éliminatoire. Papa. Ça c'est dangereux. Et on prend ce qu'on va mettre sous sa coupole. Reste bien là, toi. Bouge pas. Et puis, si l'autre s'avance, Dieu est amour. Merci Seigneur de ton amour. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Non mais, oh, vous savez à qui vous parlez? Vous croyez que le comportement va s'effacer par quelques mots? Faux! Il faut revenir à une pratique. Je n'aime pas, mais je dois aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, mais ton prochain comme toi-même. Et non, en le maudissant, en l'évacuant, en l'écartant, en le mettant de côté, en l'ignorant, en le méprisant, en détruisant même sa réputation, en détruisant même par ta langue, avec ta méchanceté, ce qu'il est dans son identité, pour qu'il ait le regard des autres sur lui qui soit pesant, négatif et qu'il soit méfiant, prudent. Et moi, je dis, ta qualité de vie en tant que croyant à ce niveau-là est médiocre. Alors, je vais plus loin. Parce que dans l'intercession, il y a quelque chose, c'était le point fort que je voulais amener. Il y a quelque chose qui est un point fort. C'est que si les niveaux sont si bas, c'est que si nous avons tellement de difficultés à avancer, c'est parce que le pardon n'est plus, mais le non-pardon a pris la place. C'est parce que la haine gouverne, c'est parce que l'amertume a pris place et elle fait naître en nous toutes sortes de rejetons et de sentiments les uns sur les autres. Et elle amène la gangrène, elle amène la mort, elle amène la destruction des relations. Elle ne donne plus la vie, elle ne donne plus d'enfants. Elle tue les enfants du futur. Elle tue ceux qui voudraient venir et s'élever dans la main de Dieu. Et après on dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, nous avons péché, alors on va s'humilier. T'humilier de quoi? Reconnais d'abord où tu as fauté. Et pas seulement regarde comment, si c'est les autres qui ont fauté, regarde si toi tu as fauté. Ça c'est Yom Kippour. La fête des expiations, c'est d'effacer. Quand je vous disais tout à l'heure, voilà, nous arrivons à Pessah, mais jusqu'à Pessah, avons-nous fait vraiment Yom Kippour? Est-ce qu'il y a encore de la haine ou pas? Est-ce que le pardon a été donné, accordé, vécu, ou est-ce qu'il n'est pas? Et je le sais aussi par les entretiens que j'ai, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est pratiquement global dans la vie de tout le monde. Que la haine domine au lieu de l'amour, au lieu de la compassion. Et on ne prie pas en général pour son ennemi. On ne prie pas pour celui que l'on méprise et que l'on n'aime pas. On l'oublie et on l'évite. Il peut venir dans le même lieu que moi, mais il n'est pas de la famille. Alors moi je vais te dire, si tu penses comme ça, je t'aiderai à sortir. Parce que seuls ceux qui veulent réparer avec un tikkun haolam, une force spirituelle nouvelle, qui va amener une vraie guérison dans les vies, dans les profondeurs des vies, parce que ce n'est pas seulement le passé, mais c'est tout ce qui lie les pères à notre présent. Toutes les fautes, tout ce que nous aurons porté, tout ce qui aurait été porté sur les enfants et les petits-enfants. Et à un moment donné, la force de la prière, elle va nous amener dans le Messie Yeshua à comprendre qu'il est mort à cause de nos fautes, mais que c'est par amour et que ce n'est pas simplement par devoir qu'il est venu, mais parce que Dieu a tant aimé. Le monde qu'il a donné à son fils, Yeshua. Et ce n'est pas simplement dire « Ah, je suis sauvé, je suis sous l'onction, j'ai les dents, je prie. Reviens à la vie, mon vieux. Hein. » À un moment donné, ce n'est pas seulement ça. C'est de dire « Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec qui je ne suis pas en règle ?» Alors moi, je le dis franchement, clairement. Je l'établis comme une base, comme un fondement, comme quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas dessus. Et où je ne changerai pas. C'est une direction divine. Cette direction, elle sera respectée par moi. Ceux qui ne veulent pas réparer, mais qu'ils veulent conserver leur haine de manière consciente, volontaire, et qu'ils ne veulent pas changer, n'ont plus leur place ici. Mais plus du tout. Ou alors je t'interdis de faire kippour. Et tu porteras la conséquence de l'acte. On ne se moque pas ni des hommes ni de Dieu. Et qu'on n'a pas le droit d'avoir un comportement qui soit théorique et qui n'est pas de réalité. Ce n'est pas de faire chaque année qui pour sa petite vie, pardon Seigneur, et de s'analyser. Ah oui, toute la guerre. Et puis, trois semaines après, ça y est, l'autre. C'est Joss Randall. Chasseur de tête, chasseur de primes. Et ça revient très vite. Mais c'est à un moment donné de dire oui, c'est dur. C'est dur d'aimer. C'est dur. Moi, je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que pardonner est simplement administratif. C'est extirper, c'est mourir à l'orgueil. Et là, tu es vainqueur. Parce que quand tu le fais mourir, cet amour-propre, cet orgueil, là, oui, Dieu t'élève. Là, oui, il y a quelque chose. Tu construis et Dieu reconstruit le tikkun, le bien est venu. Et la puissance, la présence de Dieu grandit, elle grossit, la nuée, elle vient, elle couvre. Autrement, pas du tout. Et qu'on a une écoute à avoir aujourd'hui dans la Keïla d'un certain nombre de choses que l'on veut remettre sur place, sur pied. Bien sûr qu'on pourrait avoir différents moyens de le faire, différentes façons de le faire. Mais à un moment donné, il faut savoir à qui on veut obéir. Qui nous dirige ? Sentiment ? Blessure ? Donnez-lui un nom. Donnez une identité. Et ensuite, vous verrez qui gouverne. Quelle entité gouverne ? Et si on veut rentrer dans la dimension qui nous conduit là, bientôt à Pessah, et ce n'est pas un hasard que ça se produit dans ces parachas de maintenant par rapport aux événements actuels. Je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas normal qu'un croyant qui dise un certain nombre de choses continue année, mois après mois, dans la haine de l'autre. Là, ne me dites pas qu'il y a une règle divine, qu'il y a une direction de Dieu, une onction de Dieu, ou que vous avez reçu une onction spéciale pour avoir ces sentiments-là. Je n'y crois pas. Le pardon passe par la médiation. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul est venu. Et que parfois, lorsqu'on ne peut pas, il faut accepter que quelqu'un vienne nous aider. Vienne nous aider à faire un cheminement de pardon, parce que c'est dur. Parce qu'il y a des choses tellement ancrées dans l'amour propre, mais aussi dans les vécus, dans les douleurs, dans les souffrances, que c'est dur et que tout seul, on ne peut pas obligatoirement avoir la volonté. Et je peux vous dire que ça m'a pris dans mon jeune cœur avec le Messie, mais ça m'a pris des journées, des mois, des semaines, mais j'ai voulu m'en débarrasser, mais c'était un combat, une lutte à mort. Vous croyez que c'était évident, je suis arrivé, oh Dieu Tout-Puissant. Tu vois, j'arrive pas à pardonner le gars là, mais grâce à ton amour, je lui pardonne. Et puis, je sors de la chambre, je vais vers lui, je l'embrasse. Moi, ça aurait été très bien, ça. Simplement, quand je suis sorti, il m'énervait encore plus. Par expérience. J'ai même failli le prendre. Et puis, la volonté de vaincre. La volonté de vaincre a fait qu'à un moment donné, j'ai dit non, je ne peux pas. Je le pouvais avant dans mon ancienne vie. Je le pouvais avant dans mon ignorance. Je le pouvais avant parce que la violence et la haine étaient en moi, parce qu'elles me gouvernaient et que je n'avais qu'à donner libre cours. Mais là, j'ai plus le droit. Et c'était contradictoire. Et j'ai dit, à un moment donné, pour renoncer. Et j'ai été vers lui. La gorge nouée. Avec des... Je finis quand je finis, Paul. Si tu veux partir, tu es libre. Tu es libre. Je n'ai pas à suivre... Ceux qui ont eu besoin de partir sont partis. Hein. Là, je parle à la Keïla de choses importantes. Et je ne vais pas m'arrêter là. Et je crois que c'est important que nous ayons quelque chose qui extirpe le vrai mal, qui est l'ego, l'amour propre, la susceptibilité, car il y a beaucoup plus de problèmes, soi-disant, entre guillemets, de blessures, de susceptibilité, d'amour-propre, de jalousie, que de vraies raisons à une blessure. Et là, il y a besoin de sortir. Alors, il y a quelque chose où nous devons comprendre que nous pouvons être vaincus, vaincus par nos haines. Nous ne sommes pas vaincus à cause d'un démon qui nous attaque. Nous sommes vaincus par nos sentiments, par nos haines qui ont pris racine en nous et dont on n'arrive pas à se défaire parce qu'elles deviennent contradictoires, elles deviennent terribles, elles deviennent un combat interne entre là et là et le relationnel devient difficile. Eh bien, c'est là, Amalek. C'est là le combat du futur, du rétablissement d'une Keïla, même dans son futur, dans ceux qui viendront après, ils seront libérés de tout le passé des pères d'une assemblée. Car toutes les assemblées aujourd'hui vivent sur la haine et division des pères, de tout ce que les autres ont fait avant que nous soyons présents. Et là, il faut y arrêter. Alors, l'amertume, la rancœur sont et la jalousie sont des sentiments présents chez beaucoup. Chez beaucoup. Et puis il y a les sentiments cachés que l'on ne formule pas, mais que l'on a. Et puis en même temps, il faut savoir que ce sont des désirs contraires à la volonté de Dieu. Ce sont les œuvres de la chair qui nous amènent à la mort, à la corruption, mais qui n'ont rien à voir avec le fruit de l'esprit. Alors, vous dites que vous faites parfois Kippour. Ah, nous avons fait Kippour. Quel Kippour ? Quel Kippour t'as fait ? Un Kippour où tu as simplement, théoriquement, demandé pardon ? Ou un Kippour qui a changé ta vie ? Pour moi, un Kippour, c'est ça. Alors, si l'amertume, la médisance, le lachonara, les relations de clan, et j'espère que vous m'entendez, les relations de clan, les absences de relations de solidarité, de compassion perdurent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réparé, mais que nous avons besoin de réparer, et que nous devons avoir le courage de le réparer ensemble. Il y a des choses où vous êtes, et je suis, responsable. On a tous une responsabilité. Et il n'y a pas d'accusation à donner. Mais il n'y en a pas à recevoir non plus. Il y a un constat à faire. Il y a une dimension à découvrir dans la profondeur du cœur de Dieu. Et que Dieu va déverser son amour comme un père. Parce que quand un enfant regrette vraiment, quand il demande pardon à son père, moi je me rappelle... Quand je blessais ma mère, j'entendais ma mère des fois pleurer, elle disait rien, la fierté de ma mère. Mais on l'entendait sangloter et ça nous brisait le cœur. Et on se levait, on était les petits mômes comme ça, on se levait, on courait là-bas. Et on disait non maman, pleure pas, pardon. Mais on pardonnait, on n'était pas le lendemain matin. Non ben on t'a pardonné mais quand même, hein, t'as exagéré. Vous comprenez ? Et c'était fini. Et quand elle disait bisous, c'était fini. Le passé était passé. Et il nous faut trouver, à un moment donné, la force, la ressource qui va vaincre. Parce que l'Égypte dans ce monde, l'esprit de ce monde, est en train de vaincre et de tuer, d'amener la criminalité, d'amener la mort sociale, d'amener tout ça parce que vous croyez que c'est quoi ? Ben, c'est l'attitude des hommes qui ne correspond plus au cœur de Dieu. Et que ça devient un vrai drame. Et ça grandit. Donc, les relations de clan, n'être qu'avec ceux que vous aimez, qu'avec ceux avec qui vous vous sentez bien, parce que vous avez peur des démons, hein ? Ah ben moi, je vais t'en envoyer. Je vois un clan, maintenant, je t'en envoie. Des gens. Je vais t'envoyer plein de mecs, plein de femmes. Pour justement briser le clan. Afin qu'il y ait des clandestins. Alors, la question c'est, qu'avez-vous vaincu dans vos réphidimes ? notre niveau spirituel doit monter. Pour vaincre l'amour propre et l'orgueil, mais aussi l'orgueil spirituel. Il y en a qui ne se prennent pas pour n'importe qui, devant les autres, dans leur position par rapport à Dieu. La puissance, la vraie, celle qui libère toute âme de tout joug, c'est le pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal ou offensés. Sinon, on pourra dire, nous avons été vaincus à Réphidim et nous sommes morts à Réphidim sans jamais voir l'accomplissement. Conclusion, c'est Our, le nom de Our. Là, c'était la puissance de Aaron, la puissance de Our. Mais je ne vais pas le développer. Elle développe un certain nombre de choses, mais juste pour vous aiguiller, qui est Our. Il est le fils d'Uri. Et c'est extraordinaire quand on lira les passages qui le concernent. Même dans le futur, on retrouve Yahushua, Our, la descendance, ce qu'on reçut après la construction de la maison de Dieu vient de Our. Pourquoi Dieu a donné à deux personnes une intelligence supérieure pour construire sa maison? La conformité était avant. Et les fils d'Uri, ça veut dire lumière. Je ne vais pas plus loin. Mais je voudrais seulement, et je sais que j'ai fait long, je vous en demande pardon, mais je crois que c'était nécessaire. Et de vraiment retrouver un cœur pour Dieu. C'est vrai que nous avons été pénalisés par les travaux, qu'on a eu moins de temps en semaine pour avoir nos activités habituelles et cohérentes. Mais nos relations n'auraient pas dû se distancer autant. Et nos langues auraient dû s'assécher, hein. Et nous voulons vraiment maintenant conclure en priant. Et on va se lever. Pour que la crainte de Dieu revienne. Pour que tout jugement, toute caricature, tout non, pardon, toute chose soit arrêté, stoppé, que ces cancers spirituels soient guéris, que puissions avancer dans la dimension du Mashiach. Yeshua Mashiach,